Pauline Pucciano, Titania 3.0, chapitre 4, Le bon samaritain. Lorsqu'il s'éveilla, Titania s'était évaporée. Un message vocal sur son Hervé l'invitait à la retrouver le lendemain. L'appartement avait subtilement changé d'aspect. Il paraissait plus grand et plus froid, comme désenchanté. Jean se promena parmi des dressings immenses, où les vêtements et accessoires étaient rangés par couleur, par style, par affinité. Ses yeux balayèrent une multitude d'objets inutiles, ou plutôt incompréhensibles, impénétrables, qui lui rappelèrent ces mystérieux artefacts retrouvés dans les cavernes de Yu. Ils étalaient leur luxe dans des vitrines, des étagères, des boîtes, des tiroirs, qui trahissaient par leur netteté impeccable les soins jaloux de la collectionneuse. Il goûta à l'un des fruits onéreux qui s'entassaient dans le réfrigérateur, dont il n'aima pas le goût âpre, et ne put s'empêcher de retourner dans le boudoir oriental qui avait conservé encore quelques traces de la présence de Titania. Il ouvrit machinalement l'armoire des souvenirs 3D, et la vue des 850 puces, alignées dans leur boîte, le perturba. Chacune de ces petites sphères enfermait un monde de sensations et de sentiments, représentait un souvenir isolé et peut-être sans aucun rapport avec les autres. De cette somme de fragments, la personnalité de Titania surgirait-elle? S'il décidait d'en choisir un, lequel prendre dans cette constellation où il n'avait aucun repère? Il fit courir ses doigts le long des rangées de puces, amoureusement. Aurait-il une autre occasion de savoir quelque chose d'elle? Mais si elle venait à savoir qu'il avait violé ses secrets, ne risquait-elle pas de le repousser? Ses doigts s'arrêtèrent sur la dernière puce, celle qu'elle avait enregistrée la veille. Après tout, Titania lui avait proposé de la lire. Le cœur battant, il prit le casque d'immersion 3D qu'il avait utilisé la veille, inséra la puce et enclencha la lecture. La transition fut brutale, presque douloureuse. Il se voyait lui-même, comme s'il se regardait dans un miroir, sauf que son reflet avait sa vie propre. Il se raclait la gorge, rassemblait ses esprits, prenait une profonde inspiration. Pendant ce temps, les émotions de Titania submergeaient Jean, qui ne s'attendait pas à un tel déferlement. Les acteurs 3D dont il avait partagé les promenades la veille, au soir, étaient habitués à faire taire leurs sentiments. Mais Titania les laissait exploser dans ses enregistrements, dans toute leur ambiguïté. Sa poitrine était oppressée. Une angoisse diffuse, que l'on devinait permanente, formait la voix basse de cette orchestration et colorait les autres sentiments d'un pressentiment tragique. Sur ce fond grave se détachait un frisson d'exaltation amoureuse, une envie de jouer, un espoir fragile. Jean n'eut pas le temps de mettre un nom sur tout ce qu'il éprouvait, car son double leva les yeux sur Titania et se mit à déclamer. Jean ne se reconnut pas dans ce regard troublant qui semblait percer les voiles et s'adresser à ce qu'il y avait de plus profond en elle. Flottant dans le ciel blême au-dessus des structures, suivant aveuglément la courbe programmée de mon désir, de mon effroi, de mes censures, la beauté entre en moi comme un frisson glacé. Sa diction était lente et belle. Titania lui accordait toute son attention et toute son imagination. Elle se laissait charmer, comme un serpent captivé par un rythme, et son esprit formait à chaque mot des visions brumeuses et chatoyantes qui se métamorphosaient sans cesse. Elle soupira, et l'angoisse qui serrait sa poitrine parut s'exhaler par ce soupir. « Qu'es-tu, fille de neige et d'artifice? De quels milliers de noms couvres-tu le calice rayonnant et secret de ton identité ?» Il se produisait maintenant quelque chose en Titania. Au fond d'elle, un champ magnétique semblait s'être soudain éveillé. Comme si la gravité autour d'elle avait changé, son ventre devenait le centre obscur d'une attraction universelle. C'était plaisant, un peu vertigineux. Qu'étreindrai-je ce soir, miracle ou maléfice, quand ma main brisera comme en un sacrifice l'éblouissante glace de ta nudité? Les émotions de Titania devinrent si fortes que Jean perdit quasiment la conscience de lui-même. Le cœur de Titania battait à tout rompre, et lorsque le visage de Jean se rapprocha et qu'elle ferma les yeux, lorsque leurs lèvres s'ouvrirent et que leurs langues se mêlèrent, la sensation d'apesanteur et de fusion fut si intense qu'elle manqua d'effaillir. Elle s'écarta d'instinct pour recouvrer son identité et murmura « pas tout de suite ». La lecture s'arrêta net, et Jean fut projeté hors du souvenir, à la vitesse de la lumière, du moins C'est ainsi qu'il ressentit le retour à la réalité. Il eut un haut-le-cœur et une forte douleur à la tête, puis, en quelques minutes, le malaise s'atténua. À contre-cœur, il quitta l'appartement et repassa chez lui avant d'aller travailler. Il avait le visage tiré de l'insomnie et la conscience un peu flottante. Le souvenir de Titania prenait le pas sur ses propres souvenirs et sur son propre présent. Il ne pouvait s'empêcher de repasser la scène en boucle, incapable de démêler désormais ce qui venait d'elle et ce qui venait de lui. Il avait l'impression maintenant de la connaître, quand il n'avait fait jusque-là que l'effleurer. Cette surface lisse vibrait en dessous de douleur et de désir, et cela l'attachait à elle plus que n'importe quelle perfection plastique. La réalité cependant le rattrapa. Les tourneaux avaient laissé une douzaine d'appels manqués, et Jean se résigna à envoyer un rapport crypté avant même de faire sa toilette. Il avait eu le temps d'y songer dans l'ombre pendant que Titania dormait comme un grand lys. Malgré une grande répugnance, il avait décidé en toute rationalité de se conformer à ce qu'on attendait de lui. J'ignore encore beaucoup de choses à propos de Titania, en particulier son nom patronymique, la nature de son travail, la raison de son immense fortune. Elle a évoqué son travail pour dire qu'il lui interdisait la modification de ses organes internes. Elle habite au 53e étage de la Tour de Mars et jouit d'une vue ahurissante sur Paris. Elle dépense beaucoup de temps et d'argent dans la construction personnelle et l'immersion 3D. Il décida de ne rien dire de ses rapports avec elle, rien du hub crânien, ni des puces 3D illégales dont elle lui avait parlé. Mais il ne pouvait pas faire moins sans risquer d'attirer l'attention. Peu après avoir envoyé le message, il reçut un appel vidéo de Letourneau. « Héberton Corville ?»« Letourneau ?»« Je vous appelle au sujet de notre amie commune. Elle m'intéresse de plus en plus. » Letourneau clignait des yeux avec une insistance assez lourde. La conversation pouvait passer pour une sorte d'entremise. Jean accepta de répondre sur le même ton. « Je crois que vous lui plaisez aussi. »« J'aimerais bien savoir si elle a des projets de mobilité, de voyage, comment elle voit l'avenir, tout ça. C'est important pour construire quelque chose en couple, vous ne trouvez pas ?» Message reçu, Letourneau. Jean n'attendit pas la réponse de Letourneau et coupa la communication. Ainsi, la police pouvait forcer n'importe qui à espionner en dehors de toute infraction, de toute enquête véritable. Ravalant une bouffée de colère, il se dirigea vers la salle de bain. Il choisit le programme long, 10 minutes, avec massage aux huiles essentielles, pression d'acupuncture et épilation du torse. Puis il s'installa dans le caisson de bain et attendit. Le caisson sans bruit se mit doucement en action, projetant ses savons, ses huiles, sa vapeur, ses senteurs mécaniques, ses eaux tour à tour brûlantes et rafraîchissantes. Il se sentait comme en apesanteur dans un bouillonnement réparateur et délicieux. « Il ne manque plus que le cordon ombilical », disait souvent sa mère en riant. Les 10 minutes furent à la fois lentes et bienfaisantes. Jean sortit de son bain régénéré. Il n'avait plus mal à la tête et se sentait parfaitement opérationnel pour le travail. Il sortit de son appartement à 7h52 et se connecta à son RV dans la rue pour se tenir au courant des informations essentielles. « Bienvenue au-delà de la fiction !» disait la voix familière de Stéphane Locard. « Le krach boursier qui vient d'avoir lieu en Chine promet de se répercuter sur tous les continents dans les heures qui viennent. Le capitalisme est-il en train de courir à sa propre perte ? Une ville entière s'est effondrée il y a quelques minutes à peine en Iran, provoquant un bilan estimatif de plusieurs centaines de milliers de morts. La main de Dieu a-t-elle enfin puni les récentes exactions du gouvernement théocratique ? Les communications sur Mars se sont brutalement interrompues après l'annonce inquiétante d'une épidémie d'un nouveau type. Les scientifiques du laboratoire craignent un taux de mortalité de plus de 50%. Doit-on vraiment transgresser les lois naturelles pour tenter un exodéveloppement ? La guerre des diamants continue de faire rage en Afrique du Sud. La plateforme libertarienne de l'océan Pacifique organise une libation géante pour fêter son 1er million d'habitants. Que penser de ces visionnaires jusqu'au boutistes ? Aujourd'hui, l'ID enregistre une cotation boursière historique. L'avenir appartiendrait-il au monde virtuel ? Après des mois de tractations, les géants de l'industrie pharmaceutique signent tout à l'heure la création du consortium pour le monopole mondial. La mondialisation a-t-elle franchi, comme le disent certains, un pas de trop ? Retrouvez-nous pour les grands récits de l'information sur la chaîne Happenings. Jean écouta les informations d'une oreille distraite, puis fit basculer son RV sur la musique vocale qu'il écoutait la veille. la voix de femme, intemporelle et sereine, l'enveloppa immédiatement dans un cocon ouaté. À tout instant depuis qu'il l'avait quittée, il voyait Titania. Une seule nuit passée avec elle l'avait submergée d'images et de sensations. Ses cheveux noués et dénoués, la courbe de son ventre scintillant, son regard froid, son regard amoureux, le goût de sa langue qu'un implant lingual parfumait d'une saveur de thé, sa position fœtale lorsqu'elle dormait, la vue de son appartement au petit matin. Elle s'imprégnait en lui, comme un liquide dans du sable. Il l'apercevait au bord de son champ de vision, empoignait le fantôme de son corps dans ses mains vides, aspirait son parfum dans les senteurs fugitives de la ville. Elle faisait corps avec l'espace, avec la ville, avec lui-même, comme s'il n'avait plus de rapport au monde qu'à travers elle. Mais il ne pouvait pas la voir. Elle avait de mystérieuses obligations sur lesquelles elle ne s'était pas étendue. Il accomplit donc ses tâches professionnelles sans y songer, avant de ressentir le soir venu un vide intense en reprenant le chemin de chez lui. Encore 24 heures avant de la revoir, et il s'asphyxiait déjà de ne pas être avec elle. Aussi, quand il croisa Mito, il se montra plutôt disponible. « Hé, Jean, je sais que tu m'as déjà arrosé hier, mais tu veux un bol de nouilles ? Ce serait pas de refus. » L'amour débordait du cœur de Jean et le rendait ouvert et généreux. « Tu veux qu'on aille faire un tour à la pharmacie pour ta jambe, et puis qu'on achète un bol de nouilles ?» Mito fronça les sourcils, d'un air suspicieux et comique. « Qu'est-ce qui t'arrive, mon gars ?»«
Rien. Je suis amoureux, et ça me rend gentil. »
« Eh bien, profitons-en, et je sais déjà comment je te paierai, mon vieux. »«
Ah oui ?
Je vais t'écouter parler de ta belle, ou de ton beau, d'ailleurs. »«
Pour ce que j'en sais, elle est tellement modifiée qu'elle pourrait bien être un homme, » s'amusa Jean.
Ils rirent, mais Jean regretta sa plaisanterie profanatrice. Il se dirigeait vers la pharmacie la plus proche, un libre-service géant où l'on pouvait se procurer à peu près toutes les drogues possibles, en dose individuelle. Presque plus rien n'était illégal depuis bien longtemps. Tout se consommait dans un océan d'argent. Une IA médicale était mise à la disposition des clients. Jean approcha son Hervé de l'écran tactile, équipé de plusieurs senseurs différents, du stéthoscope au thermomètre en passant par les mini-scanners, IRM et rayons X. « Libère ton Corville, » déclina poliment l'ordinateur. « Je souhaite un examen médical de la jambe gauche, plaie d'origine inconnue. Bien sûr, veuillez autoriser le versement prévisionnel. »
Jean fit la grimace intérieurement en voyant le montant s'afficher, mais ne le montra pas à Mito.
Les soins médicaux étaient devenus hors de prix depuis la grande désétatisation, et beaucoup de gens de la classe moyenne se passaient dorénavant de se soigner. Les médecins humains ne s'occupaient quasiment plus que des millionnaires, les autres se contentaient des machines. Mito posa sa jambe avec quelques difficultés dans l'étrier prévu à cet effet. Les senseurs se mirent en branle avec un petit bourdonnement et une émission de lumière. « Diagnostic probable à 87%. Début de gangrène faisant suite à une engelure grave. Pronostic en l'absence de médication, choc toxique probable dans les jours qui viennent, avec nécessité d'hospitalisation. Prescription médicale, un bain prolongé d'antibiotiques locaux B812 à renouveler 3 fois les 3 prochains jours, une compresse stérile à changer toutes les 12 heures, une injection immédiate d'antibiotiques C912 suivie d'une injection quotidienne pendant 15 jours. Tous ces soins peuvent être réalisés à domicile. » « Voulez-vous un devis ?»«
Oui, s'il vous plaît. »
Le montant s'afficha, fort élevé, mais Jean n'hésita même pas. Il valida rapidement la transaction. « Votre paquet médical est en préparation. Voulez-vous consulter un tutoriel sur le bain d'antibiotiques, le pansement ou les injections ?»«
Non, ça ira, » dit Jean.
« Nous vous remercions vivement de votre confiance et vous souhaitons un bon rétablissement. Il serait souhaitable de renouveler votre visite d'ici le 14 mars. »
Mito était resté silencieux pendant toute l'opération.
« Merci, » dit-il quand le paquet arriva par le tapis roulant. « Tu vas devoir monter chez moi pour le bain, » le prévint Jean. « Je vais me débrouiller, Jean. Mais non, voyons, il faut toujours finir ce qu'on a commencé, tu ne crois pas ?» À la lumière, Mito se révélait beaucoup moins vieux que Jean ne l'aurait cru. En fait, il avait presque le même âge que lui. Mais il ne l'avait jamais regardé sous cet angle, comme un être humain à part entière. Il n'avait été qu'un HR parmi des centaines de milliers d'autres, jusqu'à ce soir.
« Mito, ce n'est pas ton vrai nom ?»«
Non, mais qui se soucie de mon vrai nom ?»«